إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sa permission. Et nous lui demandons subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Nous en sommes au quatrième hadith des 40 hadiths du Hafiz al-Nawawi rahimahullah. An Abi Abdirrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batn ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Donc le quatrième hadith cité par الحافظ النووي رحمه الله. Et le hadith d'Abu Abdirrahman, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, et c'est lui le véridique et le digne d'être cru. La conception de chacun d'entre vous est rassemblée sous la forme d'une semence dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Puis, sous celle d'une adhérence pendant une période similaire, puis sous celle d'un morceau de chair pendant une période similaire. Allah mande ensuite l'ange qui insuffle en lui l'âme ou l'esprit, et à qui sont ordonnées quatre paroles. Écrit, est-il dit à l'ange, ce qui lui sera accordé comme subsistance, comme risque. Le moment de sa mort, ses actions et son sort misérable ou bienheureux dans l'au-delà. Par Allah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf lui, l'un d'entre vous accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis sa prédestinée le devance, il accomplit les actions des gens du feu et il entre dans le feu. Un autre d'entre vous accomplit les actions des gens du feu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le feu, puis sa destinée le devance, il accomplit les actions des gens du paradis et il y entre. Donc ce hadith, il est rapporté dans les deux recueils de hadith authentiques, Al-Bukhari et Muslim, mais pas tout à fait avec cette version. C'est des versions qui sont proches de celle-là dans le mot, dans les mots utilisés, mais pas tout à fait comme elle a été citée par Al-Hafidh al-Nawawi dans les 40 hadiths. Ce hadith, il parle des étapes de la création de l'être humain dans le ventre de sa mère, de la destinée qui lui est écrite pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, et de sa finalité, de la finalité de l'être humain et l'importance des dernières œuvres sur lesquelles il va mourir. Concernant la première partie du hadith, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La conception de chacun d'entre vous est rassemblée dans le ventre de sa mère pendant une période de 40 jours sous la forme d'une semence. » Notfa, une goutte, une semence, qui est dans l'utérus de la mère. Cette semence qui commence à prendre une forme, mais pas détaillée, une forme non détaillée, qui est, cette semence, c'est une jonction entre la semence de l'homme et la semence de la femme, qui donne cette semence qui est dans le ventre de la mère, dans l'utérus de la mère, mais qui n'a pas encore des formes détaillées. Puis, sous la forme d'une adhérence pendant une période similaire, alaqa, qui est un morceau de sang. L'alaqa, un morceau de sang. Et c'est à partir de ce moment-là que les détails de la création commencent à apparaître sur ce fœtus. Et ce hadith, il y a une autre version de Hudayfa qui est rapportée par l'imam Muslim qui explique clairement que c'est à ce moment-là que apparaissent les détails de la création de cet enfant. C'est à ce moment-là aussi où il est déterminé si ce sera un garçon ou une fille après les deuxièmes 40 jours. Puis, ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً. Puis, dans une période similaire, c'est-à-dire 40 autres jours, il sera sous la forme d'un morceau de chair que l'on peut mâcher. D'un morceau de chair. Ce morceau de chair, qui est comme un tout petit morceau de viande que l'on pourrait mâcher, elle peut être de deux formes. مُخَلَّقَة وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. Puis il sera un morceau de chair dont la conception est complète ou terminée et une autre qui est manquante. C'est-à-dire une personne dont, un fœtus dont la conception est complète, il n'a pas de handicap, il n'a pas de manquement dans ses membres ni rien, et un autre qui pourrait avoir des manquements dans ses membres où sa conception n'est pas complète. Puis un ange lui est envoyé et son âme lui est insufflée et quatre choses lui sont écrites. Dans la version qui est rapportée par l'imam al-Bukhari, il est clairement dit que d'abord, les quatre choses lui sont écrites, puis après, l'âme lui est insufflée. D'abord, les quatre paroles lui sont écrites, puis après, l'âme lui est insufflée. Et cette version de Bukhari vient détailler la version qui était chez l'imam Muslim, qui n'est pas détaillée. Il faut savoir que dans l'utérus de la mère, dans le ventre de la mère, la destinée est écrite à deux moments différents, selon la parole la plus juste. Vous allez comprendre cela. Le premier moment, c'est après les premiers 40 jours. au début de la deuxième période de 40 jours. Ceci est rapporté de manière authentique dans le hadith de Hudayfa, qui est dans le recueil authentique de l'imam Muslim, que après les 40 jours, l'ange vient lui écrire les quatre choses. Mais dans cette autre version, celle qu'on vient de lire, de Abdullah ibn Mas'ud, qui est rapportée elle dans le Bukhari et Muslim, il est dit que c'est après les troisièmes 40 jours, c'est-à-dire après 4 mois. Donc certains savants ont trouvé une contradiction entre ces deux hadiths et ont devancé le hadith d'Ibn Mas'ud qui est avec nous et ont dit que non, c'est après 4 mois. D'autres ont dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Allah tabaraka wa ta'ala peut très bien décider que ces 4 paroles lui soient écrites à plusieurs reprises. Comme le fait, par exemple, que l'on sait que la destinée de chacun est écrite une fois dans sa vie, dans le ventre de sa mère, ou 2 fois, selon cette version. Puis chaque année, la destinée de chacun est réécrite pour une année, Laylat al-Qadr. Et avant cela, c'était écrit dans les tablettes gardées auprès d'Allah. Donc ce n'est que confirmation après confirmation. Ou bien on va dire que les destinées annuelles est plus détaillée que la destinée générale de sa vie entière, et la destinée de sa vie entière est un peu plus détaillée que la destinée qui lui est destinée dans les tablettes gardées. Quoi qu'il en soit, tout ceci ne se contredit pas. Si Allah veut, il écrit et réordonne d'écrire la destinée en concordance avec ce qu'il avait prédestiné et ce qu'il connaissait dans sa science infinie, subhanahu wa ta'ala, bien avant la création des cieux et de la terre, mais cela ne contredit en rien cela. Le fait qu'il y ait plusieurs écritures, ce ne sont pas des écritures qui se contredisent, ce sont des écritures qui se confirment l'une l'autre. C'est ça qui est important à comprendre. Donc ici, cette écriture de la destinée de l'homme dans sa vie, ses 4 paroles, sa subsistance, la date de sa mort, ses œuvres, et est-ce qu'il fera partie des vainqueurs ou des perdants dans l'au-delà, tout ceci est écrit avant que l'âme lui soit insufflée. Une première fois après les 40 jours, et une deuxième fois après que 4 mois soient passés, juste avant que l'âme lui soit insufflée. C'est ça qui est important à comprendre. Puis, la deuxième partie du hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah que certaines personnes font des actes parmi les actes du gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre eux et le paradis qu'une coudée, c'est-à-dire entre eux et la mort. Parce que ce qui sépare l'homme de l'accès au paradis ou à l'enfer, c'est la mort. Donc entre lui et la mort, il ne reste qu'une coudée. C'est les derniers moments, les derniers instants de sa vie. Voilà que sa destinée le devance. Il fait une œuvre parmi les œuvres de l'enfer, puis il y entre. Il entre au feu. De même, certaines personnes font les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort, lui et l'accès à l'enfer, qu'une coudée. Un moment, puis sa destinée le devance, et il fait une œuvre parmi les œuvres du paradis, et il y entre. Cette partie du hadith, il faut savoir qu'il y a une autre version du hadith qui est rapportée par Sahl ibn Sa'd dans les 2 recueils authentiques qui détaille cette partie du hadith. Comment il détaille cela? Il dit dans cette autre version authentique, l'un de vous fait les œuvres du paradis à ce qui paraît aux gens. C'est-à-dire en réalité, il ne fait pas les œuvres des gens du paradis. Il a des actions en secret qui sont les actions des gens de l'enfer. Il a dans son cœur une maladie, une hypocrisie, de l'orgueil, autres qui sont les actions des gens de l'enfer. Mais devant les gens, selon l'apparence, on dirait qu'il fait les actions des gens du paradis. Bien qu'en réalité, même ces actions-là auprès d'Allah ne sont pas aimées. À cause d'un mal qu'il renferme dans son cœur ou à cause d'un manque de sincérité que ses actions, il ne les fait pas pour Allah, il les fait pour se montrer aux gens, comme un hypocrite de l'hypocrisie majeure, ou bien même qui est touché par l'hypocrisie mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Alors, quand on dit sa destinée le devance, c'est-à-dire la réalité de ce qu'il est le devance, ce qu'il faisait apparaître aux gens, et ce qu'il voulait cacher aux gens, à un moment ou à un autre, ça sort, Allah le connaît. Il peut jouer un rôle, mais au moment de la mort, ce rôle ne sert plus à rien. Alors sa destinée le devance. Et il agira selon ce qu'il mérite, et il mourira selon ce qu'il mérite. Car la personne meurt comme il a vécu, et il sera ressuscité comme il est mort. C'est-à-dire, s'il a vécu, Inch'Allah, dans la sincérité et l'obéissance à Allah, de manière correcte, sincère, il mourra dans la sincérité, dans l'obéissance d'Allah, et il sera ressuscité parmi les obéissants. Et vice-versa. Par contre, celui qui montre l'apparence de l'obéissance, mais qui en réalité, n'est pas sincère dans ses actes. Ou bien c'est un hypocrite de l'hypocrisie majeure, c'est-à-dire qu'il ne croit même pas dans l'au-delà, il fait ça juste pour s'intégrer dans la société ou dans le groupe dans lequel il est, ou pour nuire aux musulmans, ou bien même un autre qui est musulman, qui va passer par l'enfer pour se faire châtier pour les grands péchés qu'il a faits, mais qui en sortira un jour ou l'autre. Par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, puis le bienfait du tawhid qu'il porte dans son cœur. De même, l'autre qui fait en apparence des œuvres parmi les œuvres de gens de l'enfer. Mais en cachette, il a aussi des œuvres des gens du paradis. Il se repent. Il demande pardon à Allah, il regrette ses péchés, il fait beaucoup de bonnes œuvres pour rattraper les péchés qu'il fait. Mais les gens ne le savent pas, ça c'est entre lui et Allah. Il pleure la nuit, il demande pardon à Allah pour ses péchés. Il demande à Allah de l'aider de se repentir de ce péché. Il fait beaucoup de bonnes œuvres, de sadaqa, de lecture du Coran, de prière, d'aide aux gens pour contrebalancer les péchés qu'il fait pour les contrebalancer par des bonnes actions. Mais les gens ne voient pas ça. Ils voient de lui que les mauvaises choses. Donc aux yeux des gens, il fait les œuvres des gens du feu. Mais entre lui et Allah, il y a des œuvres par lesquelles Allah va lui pardonner, va lui faire miséricorde. Alors sa destinée le devance. Et il fait une œuvre parmi les œuvres des gens du paradis. Et il y entre. Ce hadith nous donne beaucoup de leçons quant à l'importance de la sincérité et des bonnes œuvres sincèrement pour Allah et des œuvres cachées. Et quant à la défiance du fait de prêter attention à l'image qu'on dégage auprès des gens et à la place qu'on a auprès des gens sans prêter attention à la place qu'on aurait auprès d'Allah. Attention, ça ne veut pas dire que la personne, il doit se faire passer pour quelqu'un de pas bien. Non, quelqu'un essaie de préserver son honneur. Mais il ne devance pas la satisfaction des gens et le regard des gens au regard d'Allah sur lui et à la satisfaction d'Allah sur lui. Puis on apprend de ce hadith l'importance de la finalité. La personne a beau faire ce qu'il veut, l'important c'est comment il va finir. Quelqu'un peut être toute sa vie dans le bon chemin, en apparence, et puis il finit mal et il meurt dans le mal. Et un autre, toute sa vie il est dans le péché, et Allah lui permet de se repentir un peu avant sa mort, et il meurt sur le repentir. Vous connaissez tous le hadith de la personne qui a tué 100 personnes. 99 personnes, puis une centième. 100 personnes. Mais il a exprimé un repentir tellement sincère. Il regrettait tellement ses actes qu'Allah lui a permis de se repentir et de mourir sur le repentir. C'est pour ça que la personne ne doit jamais désespérer en la miséricorde d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tout fils d'Adam est pécheur. Tout fils d'Adam fait des erreurs. L'important, c'est de revenir au plus vite. De ne pas s'entêter dans l'erreur. Quelqu'un par erreur, il peut faire des choses très graves. Il peut faire de l'injustice. Mais après, quand la colère passe, quand le shaitan a fait son travail, et ça y est, subhanallah, shaitan m'a bien eu. Il se repent, il répare, il s'excuse, il demande pardon et il corrige. Qu'Allah nous fasse parmi les repentants et qu'il nous fasse miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Le cinquième hadith. Le hadith al-khamis. An ummi al-mu'minina, ummi abdillah, Aisha radiallahu anha, qalat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري رحمه الله Cinquième hadith, d'après la mère des croyants, Ummu Abdillah, Aisha, radiallahu anha. Elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque apporte à notre affaire si une nouvelle chose verra cette chose rejetée. Dans la version de Muslim, rahimahullah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit un acte au sujet duquel nous n'avons donné aucun ordre, verra son acte rejeté. Celui qui accomplit un acte au sujet duquel nous n'avons donné aucun ordre, verra son acte rejeté. Alors ce hadith, comme on a dit, il est rapporté par le Bukhari et Muslim, mais la version qui est citée ici, c'est la version de Muslim. Ce hadith, il contient deux grands point essentiel. Le premier point, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invente dans cette affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion. Quand il dit dans cette affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion. Ce qui n'en fait pas partie. Alors ceci donne la définition de ce qu'est une innovation religieuse. La bid'a. Comme il est cité aussi dans le hadith de Irbad ibn Sariyah, qui est rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi et Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'est-ce qu'était une innovation avec ce hadith. On peut en comprendre, donc on en tire que l'innovation, c'est quoi? C'est une nouveauté. Premièrement, premier point, l'innovation, c'est une nouveauté. Deuxièmement, c'est que cette nouveauté qui est réprouvée, c'est celle qui est dans la religion, non pas dans les choses de dunya, non pas dans les choses mondaines. Contrairement à ce que certains ignorants veulent faire croire. Ah, vous qui vous accrochez à la sunna, les sunnites, vous voulez pas d'innovation, vous voulez rester à l'époque des chameaux. Dans les points de la religion, oui. Mais dans les choses mondaines, on n'a pas de souci avec l'innovation qui n'est pas contradictoire à notre religion. Les innovations réprouvées, c'est dans la religion. Ce hadith, il parle de la religion. Et non pas des choses de la vie. Ça, c'est important à comprendre. Donc, la première chose, on a dit que c'est les choses innovées. Deuxièmement, les choses innovées dans la religion. Troisièmement, les choses innovées dans la religion qui n'en font pas partie. Qu'est-ce que ça veut dire qui n'en font pas partie? Qui ne sont pas, qui ne reviennent pas à un fondement parmi les fondements de la religion. ou qui ne visent pas un objectif parmi les objectifs de la religion, ou qui ne sont pas bâtis sur les règles religieuses. Car il y a des choses dans la religion qui sont bâties sur les fondements de la religion et sur les règles religieuses qui ne sont pas des bid'ahs, des innovations religieuses. Quand on dit ceux qui n'en font pas partie, c'est-à-dire ceux qui ne font partie ni de la religion, ni de ses fondements, ni de ceux qui découlent de ses fondements. Vous comprenez ? Quatrièmement, c'est que cette chose, elle est considérée comme une innovation si l'intention de cela, si l'objectif dans la pratique de cet acte, c'est de s'approcher d'Allah. C'est-à-dire que c'est un acte cultuel. La personne, il le fait pour en gagner une récompense. Celui qui le fait par erreur, ou qui le fait, mais il ne cherche pas une récompense derrière cela, on pourra dire que c'est haram ou halal, selon ce qu'il fait, ou contradictoire à la sunna, mais on l'appellera innovation que s'il cherche par cela à en faire une pratique religieuse. Donc, c'est-à-dire une pratique par laquelle il cherche une récompense. N'est-ce pas? Cinquièmement, c'est le fait qu'il s'y tienne et qu'il s'y accroche du fait qu'elle fait pour lui partie de la religion. Donc, on pourrait résumer que la bid'a, la définition de la bid'a, c'est ce qui a été innové dans la religion, ce qui a été inventé ou innové dans les affaires religieuses de ceux qui n'en font pas partie avec l'objectif cultuel, avec un objectif cultuel. Avec un objectif cultuel. Que cette chose fasse partie des croyances, des paroles ou des actes. L'innovation peut être une innovation dans le dogme, dans la croyance, une innovation dans la parole ou une innovation dans les actes. Ça, c'est en se basant sur le premier hadith. Le deuxième hadith, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit un acte au sujet duquel nous n'avons pas donné notre ordre, verra son acte rejeté. Il vient donner une précision supplémentaire. Premièrement, quand il dit un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire un acte qui vient rajouter des choses supplémentaires à la législation islamique. Qui vient rajouter des choses supplémentaires à la législation islamique. Et un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, ça peut être un acte contradictoire à la législation islamique. Donc, ou bien un acte supplémentaire, c'est-à-dire que cet acte, il existe en islam, sauf qu'il y rajoute. Il vient rajouter des suppléments, que ce soit dans la forme, que ce soit dans le nombre, que ce soit en le précisant, en le spécifiant à un moment précis sans preuve en cela. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire, chaque vendredi soir, il faut faire le qiyam en groupe. Le qiyam en groupe, il existe en islam, n'est-ce pas? Il existe, il est légiféré pendant le mois de Ramadan. Il est même légiféré en dehors de Ramadan de manière comme ça, quand il n'est pas organisé. De temps en temps, on est là, on est ensemble, quelqu'un prie, les autres prient derrière lui. C'est pas grave, ça arrive, c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez toi, tu lèves ta famille, vous le priez en groupe. Il n'y a pas de souci. La nuit. Mais le réglementer, chaque premier vendredi du mois, on a la conférence du mois et on fait un qiyam juste après. Ça, c'est une bid'ah. Parce que on l'a attaché à un moment précis et à une action précise sur laquelle il n'y a pas de preuve religieuse. Même si à la base, faire la prière en groupe la nuit, c'est quelque chose qui existe en islam. N'est-ce pas? Ça, c'est un exemple pour que vous compreniez mieux. Il y a des centaines de formes comme ça d'innovation dans les actes, dans les paroles et dans la croyance. On peut tirer aussi de ce hadith quelque chose de très important. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'accomplir quoi que ce soit en religion avant de recevoir l'ordre de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? On en tire une règle essentielle de l'islam. Que le fondement et la base des choses dans les adorations, dans les actes religieux, c'est que tout est haram, jusqu'à preuve du contraire. jusqu'à ce que te vienne la preuve. Laisse alayhi amruna, jusqu'à que l'ordre vienne pour cela. Avant ça, tout est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a blâmé celui qui accomplit une chose avant d'en avoir reçu l'ordre. N'est-ce pas? Mais il a blâmé celui qui accomplit une chose avant d'en avoir reçu l'ordre dans quoi? Dans les actes cultuels, dans les actes religieux. On en comprend alors que dans tout acte religieux, tout est haram. Tout. Jusqu'à preuve que c'est légitime. Donc une personne qui vient, il fait une pratique religieuse. Tu lui dis, mon frère, il ne faut pas faire cela. Il te dit, quelle est la preuve? Tu lui dis, quelle est toi ta preuve de cette pratique? C'est à toi d'amener la preuve. Car à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit que tu ne fais pas une chose avant de recevoir son ordre. Où est son ordre? Donc celui qui accomplit un acte religieux, c'est à lui d'apporter la preuve de l'acte qu'il accomplit. Et s'il n'a pas de preuve, c'est suffisant pour le blâmer. C'est suffisant pour dire que son acte ne n'est pas légiféré. Vous avez compris? Ça c'est très important. Contrairement aux actes de la vie de tous les jours. Quelqu'un qui s'habille en violet, en jaune, il met un vêtement d'un type précis. Il mange une nourriture qu'on ne connaît pas. Il commerce d'une manière qu'on ne connaît pas. On vient, on lui dit c'est haram. C'est à qui d'amener la preuve ici? Dites-moi. C'est à celui qui vient interdire. Car la base dans les choses de la vie, c'est la licéité. C'est que tout est halal. Jusqu'à preuve du contraire. Donc ici, deux règles essentielles. Première règle, dans les choses cultuelles, dans les affaires religieuses, tout est haram. Tout. Bougez un petit doigt. Tout. Jusqu'à preuve du contraire. Et dans les choses de la vie, les nourritures, l'habillement, les choses de la vie, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. On tire cela de ce hadith aussi. Aussi, les savants ont dit que ce hadith est la norme avec laquelle on juge les actes extérieurs. Comme le hadith de Omar ibn al-Khattab, le premier hadith sur l'intention, est la norme avec laquelle on juge les actes intérieurs. Donc, si on prend le hadith de Omar, premier hadith, « Innama al-a'malu bin-niyyat », les actes ne valent que par leur intention. Et ce hadith-là, de Aïcha, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Ils, à eux deux, ils sont la norme des actes intérieurs et extérieurs. Ce avec quoi on valide ou on invalide les actes intérieurs et les actes extérieurs. Et voilà pourquoi on dit que chaque acte n'est accepté qu'avec deux conditions. S'il venait à manquer une de ces conditions, cet acte est refusé. Quelles sont ces deux conditions? La sincérité et le suivi, le tawhid et la sunnah. Que l'acte soit fait sincèrement pour Allah, sans lui donner d'associé, et que cet acte il soit fait conformément à la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs versets qui viennent appuyer cela. Le verset où Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat al-Mulk, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفضيل بن عياض lui a été demandé qu'est-ce que ça veut dire أحسن عملا, pour vous tester, pour tester, pour vous éprouver, voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Il a dit أحسن عملا أصوابه وأخلصه. Celui qui est le plus juste, c'est-à-dire sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui est le plus sincère. Allah, il n'a pas dit « aktharu amala », celui qui fait le plus d'œuvres. Non, « ahsanu amala », celui qui fait les meilleures œuvres. C'est-à-dire celles qui sont sincères et celles qui sont en concordance avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith, le verset aussi dans Surat al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre, amalan saliha. Et la bonne œuvre, c'est l'œuvre avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'œuvre légiférée par l'islam. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et qu'il ne donne aucun associé dans l'adoration de son Seigneur. La sincérité. Tawhid. Barakallahu fik.